Oui, les étudiants, vous sentez comment? Mieux? Vous savez, hein, le blocus est fini, les examens sont passés. Ça va? Ça a été? J'entends pas beaucoup de retours. Si? Vous sentez mieux, libéré? Ils sont encore sous le choc. On sent mieux quand même il y a un petit brin de vacances quand même. Maintenant, il fait beau. On peut penser aux vacances sereinement ou on pense encore au rattrapage? On est tous passés par là, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. J'ai bien aimé l'histoire de Marianne, on ne s'est pas concerté pour la choisir. Mais je connaissais quelqu'un qui était un peu comme Mathéo. C'est vrai que personnellement, les examens, ça ne m'a jamais dérangé. Et je vois Gabriel qui sourit parce que ça ne l'étonne pas. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais je suis né avec certaines facilités pour les mathématiques à l'école. Et je n'avais pas besoin de travailler pour avoir 100%. D'ailleurs, je ne travaillais jamais. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça suscitait un peu l'admiration chez les parents, chez les profs, chez les autres enfants. Et ça suscitait tellement l'admiration, j'étais tellement en quête de reconnaissance que c'est devenu une obsession pour moi d'être le premier de la classe, comme Mathéo. Je sais pas si vous les connaissez, c'est ces premiers de la classe qui disent qu'ils n'ont, oh, je sais pas, sur une bonne note, j'ai pas bien travaillé, et puis on éclate tout le monde quand même. Vous savez, ceux que on n'aime pas trop. Et c'est vrai que j'étais jeune et j'étais plutôt aveugle parce que j'étais plutôt conforté par les choses que j'entendais au premier abord. Il est fort. Il a de la chance. J'aimerais bien être comme lui. Que tout soit facile, sans travailler, être le premier, être le meilleur. Et c'était vraiment devenu une obsession. Je cherchais ça tout le temps. Et pas qu'en maths après. Ça s'est transposé dans d'autres domaines. La chimie, la physique. Et c'est vrai que j'avais des facilités dans toutes ces matières scientifiques. Et j'aimais bien montrer, je voulais et j'assumais pleinement de prétendre à la place du meilleur. Et un jour, trois expériences m'ont marqué, alors que j'étais assez fier. Hein. On est fier quand on y arrive bien. La première, ça a été celle de ma sœur. J'ai une sœur qui s'appelle Alice, elle a mon âge. C'était une bonne élève aussi. Très bonne élève, mais ce n'était pas la meilleure. Et je ne sais pas si vous connaissez le système éducatif français, mais c'est un peu élitiste. D'ailleurs, les bonnes écoles sont très bonnes, mais le niveau moyen en France n'est pas si bon que ça, parce qu'on n'est pas très bien classé, vous savez, dans le classement PISA. Parce que globalement, l'éducation met trop l'accent sur les plus forts en France. Et c'est ce qui se passait avec ma sœur. On était tous les deux sélectionnés. On devait rentrer un dossier pour rentrer dans une classe, dans une école particulière. Et ils prenaient les meilleurs de l'école primaire. Et puis après, il y avait une petite sélection en interne pour prendre les meilleurs pour faire une classe spéciale qu'on appelait la classe européenne, pour en faire les meilleurs. Moi, j'y suis arrivé au premier, bien sûr, très fier. Et ma sœur a raté. Ça a été dur parce que mes parents, ils n'ont pas trop laissé passer. Pourquoi ton frère et pas toi? Moi, j'étais le meilleur, c'était ça qui comptait. Et puis des années après, vous savez, ma sœur, qui était une très bonne élève, s'est retrouvée même à redoubler, a eu du mal à reprendre les études. Et un jour, je suis allé la voir et je lui ai dit, mais c'est marrant parce que quand on était petit, tu étais une très bonne élève. Et elle m'a répondu. J'ai fait exprès de rater parce que ce n'était pas facile de t'avoir comme frère tout le temps premier. Tout le temps comparé, j'ai préféré redoubler pour pas être dans la même classe que toi et ne pas avoir à subir de comparaison. J'étais un peu moins fier là d'être premier parce que j'ai senti que ça avait pesé sur ma sœur. Et puis il s'est passé encore autre chose. J'ai fait, comme certaines personnes en France, vous savez, le système élitiste en France, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles pour devenir ingénieur civil. Et je suis parti avec deux de mes meilleurs amis à Strasbourg pour étudier. C'est mes meilleurs amis parce qu'il y en a un, c'était mon témoin de mariage, et l'autre, c'était la marraine, c'est toujours la marraine de ma fille. Et là, pareil, j'étais premier. Eux avaient un peu plus de mal. On vivait en colocation. Et à la fin de ces études-là, on passe un concours pour entrer à l'école. Et puis, j'ai pas travaillé. Eux, ils ont travaillé un petit peu. Je les ai entraînés beaucoup pour faire la fête quand même. Parce qu'on avait notre appartement, on vivait, on était jeunes, c'était cool. Et puis, les examens sont arrivés. Ils n'ont pas réussi. Et j'ai réussi. J'étais plutôt content quand même, parce que j'avais encore réussi sans trop travailler. Plutôt fier. Mais eux, à l'annonce des résultats, ne m'ont pas adressé la parole pendant une semaine. Il y en a même un qui est parti. Le gros malaise, je suis parti les voir, j'aurais dit, mais comment ça va? Ben voilà, on voulait te féliciter, bravo pour tes concours. Mais pourquoi on se parle plus? Ben parce que toi, t'as pas travaillé et tu nous as pas aidé non plus à avoir une ambiance de travail dans la colocation. Et j'étais un petit peu moins fier d'être le premier là. Et puis une autre fois, ce qui s'est passé, là c'était un peu plus récent, c'était en 2011. On passe souvent ce qui se passe dans les entreprises, ce qu'on appelle des assessment centers, pour avoir une promotion. Je devais passer manager. Et vous savez, c'est un test où on fait des tests de QI, et on fait aussi des tests comportementaux de psychologie. C'est un test, alors je pensais que comme d'habitude, j'allais le passer haut la main. Et finalement, j'ai pas été retenu. Cette fois-là. Les tests de quotient intellectuel étaient très bons. Ça se passait très très bien. Ils ont dit, vous êtes très intelligent, il n'y a pas de problème. Seul problème, c'est que pour être un bon manager, il faut être capable d'écouter les autres. Et vous, à force d'être le meilleur, vous avez tendance à vous écouter surtout vous, et surtout à ne pas laisser la place aux autres. Les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer très bien ont du mal à le faire devant vous, et ça peut être un frein pour diriger une équipe. Je suis rentré le soir, parce que c'était toute la journée, j'ai annoncé la colère à Caroline, qui a un petit peu souri, et qui a dit « ça c'est tout toi ». Et j'arrive à vous en parler aujourd'hui ouvertement parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques années, j'ai commencé une petite cure pour essayer d'arrêter d'être un sale premier. Et ça va mieux, hein, même si j'ai gardé quelques restes. Parce que pour vous dire la vérité, c'est qu'on en rigole beaucoup avec mes deux beaux-frères et un de mes meilleurs amis qui est le parrain de Nathan. Ils détestent quand je gagne. D'ailleurs, quand on joue, ils font tout pour que je ne gagne pas parce que même si j'ai fait une cure, je suis resté un très mauvais gagnant. Pas mauvais perdant, mais mauvais gagnant. Ça, quand je gagne, tout le monde l'entend. Et c'est vrai que on a joué d'ailleurs cette semaine avec mon beau-frère. Il allait perdre, il a fait « je vais tout faire pour que tu ne gagnes pas ». Être premier, une obsession qui parfois pèse sur les autres. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne du coup à la parabole que Colia nous a relu. C'est une de mes paraboles préférées d'ailleurs. Peut-être parce qu'elle me parle à moi, parce que j'étais un sale prétentieux, peut-être encore un peu. Et au lieu de la baptiser les ourvriers de la dernière heure, moi j'aime bien la rebaptiser les mauvais premiers et les derniers. Il y a trois aspects en fait qu'on peut retenir de cette parabole. Clairement, c'est assez évident, c'est le message de mise en garde de Jésus et un appel à l'humilité. Alors l'humilité, c'est parfois quelque chose de compliqué à définir. Alors je me suis amusé, j'ai regardé dans le dictionnaire en ligne. Il y avait une première définition qu'on trouve assez facilement. Sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Puis on avait une autre que j'ai trouvée, on la trouve assez facilement aussi. Je vais vous la lire. Elle est assez intéressante, je trouve. Le mot humilité est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues en soi-même. que ce soit l'orgueil, l'égocentrisme, le narcissisme, le dégoût de soi aussi, des visions qui peuvent relever de la pathologie à partir d'une certaine intensité. L'humilité n'est pas une qualité innée chez les humains. Il est communément considéré qu'elle s'acquiert avec le temps, le vécu, et qu'elle va de pair avec une maturité affective ou spirituelle. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. Et ça, j'aime bien la suite parce que ça intéresse aussi. L'humilité n'est pas forcément liée à la manière dont un individu se montre aux autres. Ainsi, la modestie n'est pas une forme d'humilité, mais plutôt une démonstration d'humilité que peut tout à fait réaliser une personne dépourvue d'humilité. De même, la fierté n'est pas incompatible avec l'humilité. Un individu peut être fier de lui pour ce qu'il a réalisé, justement parce qu'il possède assez d'humilité pour prendre conscience qu'il a fait beaucoup pour ce qu'il est. Par opposition, c'est souvent par manque d'humilité qu'un individu se dévalorise en sous-estimant ses propres capacités et donc en considérant ses réalisations comme médiocres. Je trouvais cette définition un peu plus complète. Parce que souvent on mélange parfois, c'est vrai, l'humilité et la modestie. Et parfois on pense que si on est fier, on ne peut pas être humble. Ça, c'était c'est le premier aspect de ces ouvriers de la dernière heure. Il y en a qui, vous n'êtes pas mieux que les autres, soyez humbles, mise en garde de Jésus. Je pense qu'elle est assez évidente. Je pense aussi qu'il y a un autre aspect dans cette parabole que j'aime beaucoup, c'est aussi un aspect d'espoir. Les derniers pourront être premiers. Et d'ailleurs, je pense que ça fait écho aussi au troisième aspect, c'est le souhait et la volonté de Dieu. Quel est son projet ? Et son projet vient avec ce deuxième aspect, et donc ce fait qu'il y a de l'espoir pour les derniers, c'est que souvent le projet de Dieu, comme beaucoup de ses projets, a souvent tendance à aller à l'encontre des valeurs naturelles, humaines qu'on voit dans ce monde. C'est vrai que quand on voit la société aujourd'hui, on valorise les premiers. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs que ce problème dans la société, vu que vous avez entendu parler bien sûr des mouvements des Gilets jaunes, où les gens ne comprennent pas qu'ok, des gens ont du talent, mais pourquoi toujours tout pour eux ? Et ça, Jésus, il y a longtemps déjà, le dit que ça ne va pas. Son projet à Dieu, c'est que tout le monde ait sa place et que tout le monde reçoive quelque chose. Et d'ailleurs, pour bien le montrer, vu qu'il sait que l'homme a tendance à valoriser les talents et à ne regarder que ça, toute la Bible, d'ailleurs, montre plein d'exemples d'hommes utilisés par Dieu qui sont des petites gens, comme on dit. Vous avez des exemples ou pas ? Certains que vous en connaissez. On va faire un petit truc interactif. Qui Dieu a-t-il utilisé qui était apparemment petit pour faire des grandes choses ? Il n'a pas pris les premiers. J'entends David. On se rappelle David ? Il est placé comment dans la fratrie, David ? C'est le dernier. C'est le dernier. Et vous savez qu'à l'époque, ceux qui comptaient le plus, et celui qui comptait le plus, c'était l'aîné, hein, le premier. Vous avez d'autres exemples ou pas ? Jacob. Et ça, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un exemple qui est pris dans la littérature pour montrer cette volonté de Dieu. Ésaü, c'est le premier qui sort. Et vous savez comment Jacob sort ou pas du ventre ? Il l'attrape par le pied, comme s'il fallait que le dernier prenne la place du premier. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a aussi Moïse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Grand homme de la Bible. Moïse, dans la fratrie encore, c'était lequel par rapport à Aaron et Myriam ? Le dernier. Et la Bible, on ne va peut-être pas tous les faire, vous savez, il y en a plein des exemples pour montrer que Dieu sait tellement que l'homme ne voit que les premiers et ne se concentre que sur eux, qu'il a délibérément, moi je le pense, choisi les derniers, les moins bons, pour montrer ce qu'il a envie de faire. Et d'ailleurs, Jésus est assez clair d'ailleurs sur le fait que son projet va à l'encontre de cette volonté humaine de se focaliser sur les meilleurs. Il le dit assez simple, hein, Marc 2, verset 17, tout le monde le connaît. « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus, ce qui l'intéresse, ce n'est pas forcément en premier lieu les premiers comme nous. Ce qui l'intéresse, ce sont les derniers. Il pousse même le trait un peu plus loin si les gens n'ont pas compris. Il parle, vous savez, l'histoire de la brebis perdue. Elles sont 100. Il y en a 99 qui vont bien. Il n'y en a qu'une seule qui est perdue. La plupart d'entre nous, on fait bon, ben, c'est une perdue. Hein. Et maintenant, Jésus dit qu'il va la chercher, qu'il laisse les 99 autres et qu'il a d'ailleurs plus de joie pour ces seuls derniers qui se retrouvent. Alors j'ai envie de dire quelque chose et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension. Jésus, il n'a pas de problème avec les premiers. Est-ce que vous pensez que Jésus a un problème avec les premiers? C'est vrai qu'il a mis l'accent sur les derniers dans la Bible. Il le dit clairement aussi qu'il faut mettre l'accent sur eux. Mais Jésus, il n'a pas de problème avec les premiers. Pas du tout. Parce que c'est souvent ce qu'on dit souvent. C'est que si on ne reconnaît pas le talent des meilleurs, alors du coup, on nivelle un peu vers le bas. Ça n'encourage pas les gens à travailler. Et Jésus, il dit non, moi, je n'ai pas de problème avec les premiers. D'ailleurs, quand on voit la parabole, les ouvriers reçoivent ce qui leur était promis, ceux de la première heure. Et déjà, d'ailleurs, si vous relisez le verset 1, quand il introduit cette parabole, ça commence par un quart, comme s'il voulait expliquer quelque chose, Jésus. Il faut donc aller juste avant, dans chapitre 19, sur ce que Jésus essaie d'expliquer. Vous savez à partir de quand est-ce que Jésus fait cette parabole-là? C'est un moment un peu particulier d'ailleurs. Ça commence d'ailleurs, c'était un texte que Collier a choisi il y a 2 semaines, pur hasard, on ne s'était pas concerté. C'est après 2 événements qui se produisent. Le premier, c'est les enfants qui arrivent vers Jésus. Vous connaissez, on a lu avec Collier le texte il y a 2 semaines. Et bien sûr, là, les disciples disent, attention, les enfants, c'est les derniers, qu'ils ne s'approchent pas de Jésus. Voilà, donc ça c'est le premier épisode qui dit que parfois on écarte un petit peu ceux qui sont en second plan, assez facilement. Et puis il y a aussi l'épisode, juste après, vous savez ce qui se passe une fois que les enfants sont partis? C'est l'homme riche qui arrive. L'homme riche qui arrive et qui dit à Jésus qu'il fait tout bien, presque un premier de la classe, qu'il est riche. Et vous savez ce qui se passe, Jésus lui dit avant tout, le jeune homme riche n'a pas trop envie, et il s'en va. Quelle est la réaction des disciples? C'est là que Jésus va faire la parabole. Vous connaissez la réaction des disciples ou pas? Voyons cela. Pardon? Ah voilà, mais nous, on est mieux que lui. On a tout laissé, nous. Est-ce que c'est bon pour nous, alors? Et Jésus les rabroue? Non. Il leur dit, il leur confirme, vous serez au ciel avec moi. Malgré cette envie d'être premier, Jésus n'a pas de problème avec ça. Il commence d'abord, avant de dire la parabole, de dire aux disciples, pas de problème, comme les disciples de la première heure, vous aurez votre récompense. Je n'ai pas de problème avec le talent. Je n'ai pas de problème avec le fait d'être premier. Mais alors, y a-t-il un problème pour que Jésus fasse cette parabole? Moi, la phrase la plus forte que je trouve dans cette parabole, qui va d'ailleurs, pour moi, qui schématise bien le problème humain qu'on a, c'est la question d'ailleurs que pose Jésus. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et là où nous, les hommes, souvent, on voit du mérite, Jésus voit simplement un don gratuit par amour et par bonté. C'est un peu ce que disaient les disciples. Nous, on a tout lâché. Nous, on n'est pas comme le jeune homme riche. On a tout lâché. On mérite. Et c'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est que les bénédictions de Dieu nous montrent parfois la tête. Et Dieu met en garde. deux fois, et ils n'ont pas compris, les disciples. Avec le jeune homme riche, est-ce que Dieu a un problème avec les riches? Il y en a qui ont envie de dire oui, hein. Je pense pas que Dieu, je pense que Dieu a le même problème avec les riches qu'avec les premiers. C'est quand ça leur monte à la tête. Qu'ils pensent qu'ils méritent tout. Et c'est ça bien le problème. C'est que souvent quand on pense qu'on mérite plus ou qu'on mérite bien, c'est parce que les autres méritent moins ou voire ne méritent rien. C'est grâce à moi. Moi j'ai fait ci, j'en suis arrivé là, oubliant toutes les bénédictions que Dieu avait données. Ça nous est monté à la tête et on en arrive à écarter les autres. Les adultes ont écarté les enfants. Et vous avez noté, hein, les disciples n'ont pas un seul mot pour le jeune homme riche. Ils disent pas, c'est vrai, tu vas pas le prendre avec nous au ciel? Ah non, pas de problème. Ce qui les intéresse avant tout, c'est leurs conditions. Parce que eux méritent, ils ont tout lâché. Et c'est ça le problème. Moi, je ne pense pas que Dieu ait un problème avec les premiers ou avec les riches. Il a un problème quand ça nous monte à la tête, qu'on pense qu'on mérite tout et qu'on oublie le don gratuit par amour et par bonté. Le projet de Dieu, ce n'est pas donc que les riches et les premiers n'aient rien. Ils vont recevoir leur part du gâteau. Ils auront la vie éternelle. Mais c'est que tout le monde ait quelque chose. Et là, on a tendance à valoriser, Dieu nous met en garde par cette parabole. Et j'ai envie de dire que ce que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que la question, il nous la pose aussi à nous. Moi, je vois cette parabole comme aussi une invitation à participer au projet de Dieu. Est-ce que nous voyons d'un mauvais œil que Dieu soit bon, même si les autres ont peut-être moins travaillé, sont peut-être moins doués, sont peut-être moins affectueux? Est-ce que si Dieu les sauvait, ça nous posera un problème? Est-ce que je suis tellement aveuglé par mon envie d'être le meilleur et d'être le premier que j'en suis prêt à écarter les autres pour que seulement moi, je sois reconnu? Et Dieu nous pose la question, est-ce qu'on voit d'un mauvais œil qu'il soit bon? Et je vois ça même comme une invitation à nous pencher sur les autres, plus faibles, peut-être, j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait, compte. Vous savez, on a eu les nominations, là, maintenant, il n'y a pas longtemps. Ça a été voté. Nous sommes des parents. Nous sommes des témoins de Jésus qui avons une certaine connaissance de ce que Dieu veut sur la terre pour les humains. Il y en a certains qui sont animateurs, parce qu'on n'est pas obligé d'être adulte pour avoir des responsabilités. Et nous, les responsables, les parents, qui savons mieux que les enfants, qui sommes peut-être premiers pour l'instant, nous, les témoins de Jésus, qui avons la connaissance de ce que Dieu veut pour les autres, nous, les animateurs qui nous occupons des enfants, nous sommes peut-être des premiers. Parce que Dieu, heureusement, j'ai envie de dire, nous a bénis, vous a bénis. Je pense que les responsables ont été choisis parce qu'ils avaient des qualités reconnues. Les parents sont quand même un peu plus sages que les enfants. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais vous le savez, hein, quand on a du talent, et c'est le danger, la mise en garde, quand on a de l'argent, quand on a du talent, que ça nous monte à la tête, on écrase parfois les autres. On est parfois, malgré nos bonnes intentions en tant que parents, en tant que responsables d'église, un frein au développement de l'autre, à l'espérance même de l'autre. Je pense à ma sœur qui m'a dit « Tu penses que c'était facile d'être dans ta classe ? Je préférais ne pas y être. » Puis j'entends parfois aussi des phrases, et on les a tous entendues. Face à notre talent qu'on nous montre si facilement, certains disent « Je ne pensais pas que c'était pour moi. J'ai pas osé parce que j'avais peur d'avoir l'air bête. Et encore pire, je ne me suis pas baptisé parce que je ne connais pas assez ma Bible, comme vous. Vous les premiers, vous nous impressionnez trop les derniers, et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. » Je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut. D'ailleurs, Dieu dit des belles choses aussi. Parce que c'est d'ailleurs un de mes collègues avec qui j'échange parfois sur la parole de Dieu qui m'a fait une phrase assez intéressante sur le fait qui parle des premiers et des riches. Il disait souvent, ce qui est triste, c'est qu'on oublie souvent une phrase que Dieu dit quand il parle de l'homme riche. On retient toujours que c'est difficile d'être riche et de rentrer dans le royaume des cieux. Et peut-être que Jésus ne l'a pas dit dans la parabole des premiers et des derniers. Je pense que c'est difficile d'être talentueux et de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ça nous monte à la tête. On pense qu'on a tout mérité. C'est difficile, mais vous savez ce que répond Jésus à ça ? C'est difficile pour l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Si vous avez des richesses, si vous avez du talent, avec Dieu, ce sera possible de rentrer dans son projet, d'encourager ceux qui sont peut-être un peu plus faibles, qui ont besoin d'être valorisés. Pas que Dieu ne veut pas reconnaître votre talent, vous aurez la vie éternelle. Mais il voudrait qu'avec lui, nous encourageons les autres, qu'on soit bon et qu'on ne parle plus de mérite. Parce que la personne sait bien, a bien étudié, a bien travaillé, a bien étudié sa Bible. Et j'ai noté pour moi 6 résolutions que je vais partager avec vous. Laissons parler, proposer les gens qui savent peut-être moins que nous. Accompagnons-les, soutenons-les. S'ils se trompent, recadrons-les sans leur tomber dessus avec tout le poids de notre savoir et notre bien-pensance. C'est souvent le problème, hein, vous savez. Aidons-les à rebondir plutôt que de les laisser sur le côté, comme ont fait les disciples avec les enfants et avec le jeune homme riche. Bah, il est perdu. Aidons-les à rebondir plutôt que de les laisser sur les côtés parce qu'ils n'ont pas mérité ou qu'ils l'ont bien cherché. Parce qu'avec Jésus, on ne parle pas de mérite. Participons au projet de Dieu et que les bénédictions que nous recevons, qui sont pas mal, en soient pour les autres. Que les autres puissent s'appuyer sur nous, quitte à ce qu'ils passent premier devant nous. Et enfin, même si nous sommes différents, arrêtons de classer et catégoriser les gens. Jésus le dit, le classement que vous avez fait, il sera totalement chamboulé. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Car au final, le but de Jésus, c'est qu'on ait tous la même chose, la vie éternelle. Alors vous qui êtes bénis, soyez bénis et bénissez les autres, encouragez-les. Et je m'inclus dedans parce que j'ai essayé encore de me guérir. Mais pouvons-nous prendre ces résolutions pour le bien de tous ? Amen.